Chapitre 34. La belle vie des autres. Jocelyne avait-elle une chance de réagir autrement dans cette affaire qui lui tord le ventre? Elle jette un œil à la pièce avant de la quitter. La chaise à roulettes soigneusement poussée contre son bureau, chaque dossier, chaque stylo à sa place. Rien ne dépasse, rien ne traîne. L'ordre et la rigueur sont les seuls garants du bon fonctionnement des choses. Le procureur est incroyablement bordélique. C'est une greffière comme elle dont il avait besoin. Il ne s'en serait jamais sorti autrement, Jocelyne en est certaine. Pourtant, elle constate qu'il range bien soigneusement les courriers qu'il reçoit de cette jeune femme depuis des semaines. Preuve à ses yeux qu'elle est plus importante que tout le reste, et qu'il est capable de ranger quand il est motivé. Elle arpente le boulevard sous son parapluie en évitant les aspérités et les crottes sur le trottoir. Elle déteste ces gens qui ne respectent rien, qui laissent traîner leurs chiens. Elle va encore devoir nettoyer ses talons en rentrant. Ce soir, il lui faut faire quelques courses. Elle savait que ce serait une mauvaise idée de prendre cet appartement dans le même immeuble. Mais la maladie invalidante d'une mère oblige à quelques sacrifices, et le désir de donner l'image d'une bonne fille serviable ne lui permettait pas de faire comme sa sœur aînée. Partir à l'autre bout de la France pour fuir la mauvaiseté. Car la mère n'est pas méchante, elle est mauvaise. Et Jocelyne trouve parfois la frontière assez ténue. Tu arrives tard? Je t'ai fait quelques courses. Et tu as encore traîné dans les rayons pour dépenser mon argent? Non, je n'ai pris que le nécessaire. Je te range tout dans le frigo. Quelques instants plus tard, Jocelyne se tient debout face à sa mère pour une inspection en règle à laquelle elle a toujours été soumise, depuis sa plus tendre enfance, si tant est qu'elle puisse évoquer la tendresse en parlant de cette période. Observée de haut en bas, de bas en haut, comme par un scanner à la recherche des cheveux qui dépassent, d'une chemise mal repassée, d'un bas filé, de chaussures mal cirées. Que vont penser les gens? Tu as attaché ta blouse? Oui, à la cantine, à midi, la personne juste devant moi dans la file a lâché son assiette sur le plateau. Je vais la laver en arrivant. L'infirmière de ce matin était mal coiffée. Ses cheveux lui tombaient dans les yeux pendant qu'elle me mettait mes bas de contention. Il faut que j'en parle à la responsable. Tu l'appelleras pour moi. Ce n'est pas bien gênant pour mettre des bas de contention. Ça fait négliger! Crie la vieille avec un regard qui ne souffre aucune contestation. Je l'appellerai. Avant de partir, sors ma soupe du frigo, pose-la sur le bord du fourneau et mets un couvercle. Jocelyne s'exécute. Elle s'accroche à l'idée des quelques marches qu'elle s'apprête à gravir pour s'enfermer chez elle. Au moins a-t-elle la chance d'avoir un petit appartement 2 étages au-dessus. Elle n'imagine pas ce que serait la vie si elle était commune. Son père a su bien vite qu'il fallait fuir. Mais Jocelyne est prisonnière. Comment dire aujourd'hui? Je m'en vais, débrouille-toi toute seule pour la vie courante? Elle brûlerait en enfer d'avoir abandonné sa mère. En claquant enfin la porte de son modeste studio, elle s'appuie un instant contre le mur, ferme les yeux et imagine l'existence heureuse de la femme du procureur qui doit avoir son âge. Une belle maison, une belle situation, un mari respecté. Sûrement des enfants bien élevés, un corps conforme. Elle l'a croisé une fois. Elle sent monter en elle ce mélange de colère et de tristesse. Puisqu'elle ne peut pas être cette femme, elle prendra au moins sa défense. Il ne s'en tirera pas comme ça. C'est honteux de ne pas voir le mal qu'il fait ou qu'il est sur le point de faire. Honteux. Mais il n'en reste pas moins bel homme, avec ce regard ténébreux et ce corps bien bâti. Tout le problème est là.